Vous écoutez On lit pour vous.
Sortir de la tour d'ivoire, un texte de Calvin Calési, paru le 27 août 2024 dans Le Devoir. L'expression tour d'ivoire s'emploie pour évoquer la ségrégation du monde universitaire par rapport au reste de la société. Elle dépeint l'université comme un royaume d'isolement intellectuel au sein duquel les professeurs et leurs apprentis maîtrisent et raffinent des théories abstraites tout en ignorant le monde réel. Cette distance est néanmoins ressentie par le public. Pour les apprentis qui s'entraînent dans la tour, la ligne qui sépare le monde universitaire du monde quotidien est fine. De jour, les étudiants à la maîtrise et les doctorants travaillent sous l'égide des professeurs afin de maîtriser et d'appliquer des théories et des concepts abstraits qui échappent au public. Mais le soir, ils sortent de leur tour d'ivoire et retournent vers leurs amis, leurs familles et leurs amants, avec qui ils mangent, ils boivent, ils sortent et ils parlent. Étant sortis de l'université, ces étudiants s'attendent à parler de sujets plus quotidiens, les passe-temps, le dernier match de foot, la soirée prévue pour vendredi, ou encore le ménage, la hausse des loyers ou la lenteur des transports publics. Néanmoins, ces étudiants ont choisi d'étudier la politique, une discipline qui se manifeste dans la vie quotidienne de tout le monde et qui, par conséquent, intéresse un grand nombre de personnes, même si ces personnes ne l'étudient pas. Entre la décision de la municipalité de construire une nouvelle piste cyclable et l'invasion d'un pays par un autre, à l'échelle mondiale, de même qu'à l'échelle quotidienne, il y a toujours un sujet qui intéresse les gens. Par conséquent, les étudiants de sciences politiques se trouvent interrogés sur des enjeux politiques par leur famille et par leurs amis qui cherchent à s'éclairer, à apprendre quelque chose de neuf ou à obtenir une nouvelle perspective sur un enjeu, et ce, auprès d'une personne spécialiste de la politique. Différence. Pour les étudiants de sciences politiques, cela doit paraître facile, voire divertissant, d'en parler avec leur famille ou avec leurs amis. Pourtant, ils apprennent très vite que les discussions politiques, à l'extérieur de la tour d'ivoire et à l'intérieur d'elle, sont grandement différentes. Au lieu des questions théoriques, ils se trouvent face à des questions directes, simplifiées et subjectives. Souvent, ces dernières relèvent de la prédiction. Les manifestants réussiront-ils à se faire entendre? Cette politique freinera-t-elle l'inflation? La maîtrisante ou la doctorante se trouve coincée. D'un côté, sa réponse jouera sur sa légitimité. Cette réponse doit être bien expliquée, bien réfléchie. Après tout, l'étudiante est spécialiste dans la politique. Si l'étudiante ne peut pas donner une prédiction correcte, ou du moins justifiée sur tel enjeu, à quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'elle saura faire, sinon sa propre carrière? D'un autre côté, la nature étroite des études supérieures en sciences politiques ou des études supérieures en général est typiquement ignorée par l'interlocuteur. La politique, comme toute autre discipline, est un vaste champ, et quand on l'étudie au niveau supérieur, on doit choisir un sous-champ et un enjeu encore plus précis dans lequel on se spécialise. Ainsi, on devient expert dans ce sous-champ, ou plutôt dans un enjeu au sein de ce sous-champ, sans avoir une connaissance très approfondie du reste du champ. Une étudiante qui examine les mouvements sociaux féministes en Amérique latine aura donc du mal à expliquer la trajectoire de la relation concurrentielle entre les États-Unis et la Chine. Coincée entre le besoin d'affirmer sa légitimité et la réalité de la spécialisation, l'étudiante doit vite prendre une position et penser à une justification qui se tient, sinon elle risque de paraître incompétente dans sa carrière. Auditoire. En plus, la nature de l'auditoire à l'intérieur de la tour d'ivoire et à l'extérieur d'elle n'est pas pareille. À l'université, les professeurs comprennent les limites intellectuelles des étudiants, les portées de leur spécialisation et le besoin de nuancer les positions qu'on prend et d'accepter l'incertitude. À l'extérieur, toutefois, les gens s'attendent à des explications précises, courtes et intéressantes. Ils s'attendent à ce que l'étudiante ait déjà une réponse prête, un avis réfléchi qui est soutenu par des preuves et facile à comprendre. Hors de la tour, il y a peu de patience pour les explications longues et nuancées et les gens s'ennuient vite face aux explications impliquant des concepts difficiles à saisir. Par conséquent, même dans un sous-champ qu'elle connaît, l'étudiante se trouve forcée à vulgariser ses connaissances. Il s'agit d'une traduction du langage obscur employé entre les professeurs et leurs apprentis vers un langage familier, amical et accessible pour les gens formés en d'autres champs que la science politique. À première vue, cette action de traduction peut paraître compliquée ou énervante et peut dissuader les étudiants de discuter des enjeux politiques avec des gens hors de l'université. Au lieu de la compréhension, la tolérance et la patience des professeurs, les étudiants, dans le monde réel, se trouvent face à l'impatience, à l'émotion et au désir de la simplicité. Monde réel. Les attentes auxquelles doivent répondre les spécialistes dans la politique en dehors de la tour d'ivoire sont donc très différentes de celles qu'ils rencontrent à l'université. Toutefois, la traduction des connaissances techniques acquises et cultivées dans la tour pour un public plus général est une expérience importante pour les étudiants. Après tout, un grand nombre d'étudiants ne restent pas dans le milieu universitaire à la fin de leurs études. Donc, cette capacité de traduction est au cœur de leur capacité d'exporter les connaissances générées dans la tour vers le reste du monde pour qu'elles puissent servir à la réalisation des changements importants. C'est pour cela que, malgré les difficultés et les frustrations, les étudiants doivent profiter de l'opportunité d'apprendre comment faire le lien entre le monde intellectuel et le monde qu'on appelle le monde réel. C'est en étant des ambassadeurs efficaces que les étudiants de la science politique peuvent construire des ponts entre la tour d'ivoire et le reste du monde. C'était « Sortir de la tour d'ivoire », un texte de Calvin Calési, paru le 27 août 2024 dans Le Devoir.
Le Décaméron, entre humour noir et peste tout aussi sombre. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 août 2024 dans le magazine Fugue. Fort du succès de la série Bridgerton, Netflix verse à nouveau dans la fiction historique inclusive en adaptant l'œuvre de Boccace, écrite vers 1350. Un tout autre registre est cependant à l'honneur, puisque, alors que la première série navigue dans le badinage et les amours contrariés, le Décaméron sillonne les eaux fétides de la peste noire et d'un humour grinçant. La peste noire a marqué au fer rouge le 14e siècle et, avec plus de 200 millions de victimes, s'est révélée la pandémie la plus meurtrière de l'histoire. C'est pourtant au milieu de ces miasmes putrides que l'auteur florentin Boccace rédige et situe l'action de son recueil de nouvelles, le Décaméron, littéralement le livre des 10 journées. Avec un contexte si lugubre, on pourrait s'attendre à une œuvre tout aussi sombre. Mais, force est de constater qu'elle verse, tout au contraire, dans l'humour grivois et la satire sociale. La série de Netflix retient avant tout le dispositif principal de l'œuvre originale. À la suite de l'invitation d'un riche noble, Leonardo, 10 étrangers se réfugient dans sa villa de campagne afin de flâner au soleil loin de la maladie. Cerise sur ce Sunday médiéval, l'un des invités, Dioneo, interprété par Amar Chada Patel, présente deux caractéristiques alléchantes. Il est médecin, ce qui est fort utile en temps de pandémie, et doté d'un corps de dieu dont il dénude le torse à la moindre occasion. Il accompagne son maître hypochondriaque Tindaro, Dougie McMeekin, afin d'analyser la consistance et la couleur de ses matières fécales et ainsi de le rassurer sur sa santé. Les deux hommes s'amourachent de Lysiska, Tanya Reynolds, une servante qui a usurpé l'identité de sa maîtresse Philomena, Jessica Plummer, qu'elle croit erronément morte. On compte également un couple marié, Nei Philae, Lou Gala, qui professe une chasteté absolue alors que le thermomètre de sa libido est sur le point d'exploser, et Panfilo, Karen Gill, qui tente de cacher son homosexualité tout en dévorant des yeux les séduisantes boucles noires et le torse dénudé du bon docteur. S'ajoute Pampinea, Zosia Mamet, qui, à l'aube de ses 28 ans, compte bien épouser le maître des lieux afin d'échapper à un mal plus grand que la peste, devenir une vieille fille. Elle est accompagnée de sa servante, Missia, Saoirse Monica Jackson, qui cache la femme qu'elle aime dans un tonneau. Deux domestiques complètent la galerie des personnages. Sirisco, Tony Hale, et Stratilia, Leila Farzad, qui s'ingénient à cacher la mort de leur maître, victime de la peste, quelques heures à peine avant l'arrivée des convives. La série se veut une critique de la lutte des classes sociales, où chacun professe la plus grande bienveillance envers le petit peuple, mais ne se préoccupe que de sa petite personne. La productrice exécutive, Kathleen Jordan, a d'ailleurs souligné s'être inspirée des déclarations de certaines célébrités. Au début de la COVID-19, qui se plaignaient de leur mal-être tout en étant bien à l'abri dans leur luxueuse propriété. L'ensemble est assez amusant à regarder, mais ne frappe jamais parfaitement au cœur de la cible. Bien que certaines répliques et scènes soient empreintes d'une bonne dose de cynisme, elles sont souvent noyées dans des jeux de marivaudage qui se révèlent lassants et frôle parfois même le vaudeville avec son lot de portes qui claquent, de quiproquos en tout genre, de jeux de substitution et de « ciel, mon mari ». Il y a cependant quelques trouvailles réellement hilarantes, dont un cortège de miséreux en haillons qui, sous le regard concupiscent d'une femme fuyant Florence, se transforme en mannequin aux abdominaux bien dessinés. De même pour la découverte d'un donjon secret qui incarne bien la grivoiserie, souvent indissociable des récits moyenâgeux. Info, disponible en anglais et dans un très bon doublage français sur Netflix. C'était le Décaméron, entre humour noir et peste tout aussi sombre. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 août 2024 dans le magazine Fugue.
% des candidates au titre d'IPS ont obtenu leur certificat. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 5 juin 2024 dans Le Devoir. La totalité des 161 candidates au titre d'infirmière praticienne spécialisée, IPS, ont obtenu leur certificat de spécialiste après l'examen du 6 mai 2024 a annoncé mercredi l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, OIIQ. Le taux de réussite globale de 100% pour cette cohorte est inégalé, ainsi que le nombre de participations depuis 2021, a souligné l'OIIQ dans un communiqué de presse. Cela porte donc à 1685 le nombre total d'IPS en droit d'exercer au Québec. La cible du gouvernement était d'en avoir 2000 en 2025, alors on se rapproche de ça, a souligné Luc Mathieu, président de l'Ordre professionnel, en entrevue avec Le Devoir. Sur le réseau social X, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a félicité celles qui viendront garnir les rangs des infirmières praticiennes spécialisées. C'est un autre exemple de la mise en contribution des différents professionnels pour offrir un meilleur accès aux soins en première ligne pour les Québécois, a-t-il mentionné. En plus d'être spécialisés en soins de première ligne, les IPS le sont aussi en soins aux adultes, en santé mentale, en soins pédiatriques ainsi qu'en néonatalogie. Contrairement aux infirmières qui n'ont pas leur certificat de spécialiste, les IPS peuvent notamment diagnostiquer des maladies, déterminer quels traitements donner aux patients et faire des suivis de grossesse. Depuis le 7 décembre 2023, elles sont également en mesure de prodiguer des soins de fin de vie. L'autonomie qu'ont les infirmières praticiennes spécialisées est très attractive pour les gens en recherche de carrière, soulève M. Mathieu. Dans les salons d'emploi, il y a de plus en plus de jeunes qui se promènent avec leurs parents et qui posent souvent la question « Qu'est-ce que ça prend pour devenir IPS ?» rapporte-t-il. L'examen écrit donnant accès à ce titre examine différentes situations cliniques auxquelles ces travailleuses seront exposées dans le cadre de leur spécialité. Attirer, puis retenir. Il est nécessaire d'offrir de bonnes conditions de travail aux IPS, tout comme aux infirmières ordinaires, affirme Luc Mathieu. Pour améliorer le réseau de la santé, ça prend des infirmières compétentes en nombre suffisant. Ce n'est pas tout de les attirer, il faut travailler sur leur rétention aussi. En décembre 2023, 111 candidates au titre d'IPS avaient reçu leur certificat de spécialiste. Le taux de réussite s'élevait alors à 95,7%. Du côté des infirmières qui souhaitaient accéder à la profession, l'OIIQ a dévoilé à la mi-mai que 92% des candidates qui faisaient l'examen de l'Ordre pour la première fois l'avaient réussi. En septembre 2023, seulement 69% des aspirantes à la profession avaient obtenu la note de passage lors de leur premier essai à ce test. Un an plus tôt, près de la moitié des candidates avaient échoué à cette évaluation. En novembre 2023, Québec avait confié à Marie Rinfret, ex-protectrice du citoyen, le mandat d'épauler l'OIIQ dans la révision de son examen professionnel. C'était 100% des candidates au titre d'IPS ont obtenu leur certificat. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 5 juin 2024 dans Le Devoir.
Chassé au biodôme. Un texte de Philippe Teixeira-Lessard, paru le 31 août 2024 dans la presse. Chasser des bêtes au biodôme et des insectes à l'insectarium? C'est le travail de Carl Foisy et de son équipe qui assure la protection des précieux animaux de ces institutions en capturant ceux qui tentent de les rejoindre de l'extérieur. Souris, blattes, fourmis, les proies des exterminateurs sont autrement moins spectaculaires que les aras, les ouistitis ou les lynx que les visiteurs viennent admirer par milliers, mais le terrain de chasse rend la tâche particulièrement complexe. « On vit avec le vivant », explique M. Foisy, qui travaille dans le domaine depuis plus de 20 ans. C'est très intéressant, très stimulant comme type d'environnement. pendant une visite effectuée avec la presse, il a expliqué que seuls les pièges mécaniques sont autorisés dans les salles où vivent les animaux. Les zoologistes ne voudraient pas qu'un pensionnaire puisse s'empoisonner directement ou en mangeant une souris qui a consommé un rodenticide, par exemple. M. Foisy vérifie plusieurs roches pour trouver celle qui cache un piège, installé par un collègue. Ils sont si bien camouflés dans le décor que le spécialiste se trompe lui-même à quelques reprises. Son équipe attrape une dizaine de souris chaque semaine, notamment dans les pièges situés à l'extérieur du biodôme. Dans les salles chaudes du biodôme, il y a à manger, il y a à boire, il fait chaud, il y a de quoi nicher, résume Nicolas Gruyère, patron de l'établissement. D'où l'intérêt d'intrus qui préféreraient vivre dans la forêt tropicale toute l'année plutôt que dans les froids hivers montréalais. Vecteur de maladie. Nicolas Gruyère vit bien avec l'idée d'éliminer certains intrus, malgré la mission de conservation du biodôme, ou plutôt à cause de sa mission. C'est que le biodôme se fait confier des animaux extrêmement précieux par des programmes internationaux dans l'espoir de les voir se reproduire. Il faut que je prévienne la potentielle transmission de maladies pour réussir ma mission de protection d'espèces menacées, voire en danger, voire en extinction, explique-t-il, en observant les pensionnaires de la forêt tropicale. Les souris, par exemple, sont des vecteurs de maladies qui pourraient faire des ravages. Elles peuvent être porteuses de maladies qui peuvent être transmises par les fesses, excréments, par l'urine, ou si un animal venait à les consommer, dit-il. Les primates du Nouveau Monde, comme les tamarins, on ne veut vraiment pas qu'ils soient malades à cause de souris qui peuvent être porteuses de la bactérie E. coli, de la salmonelle ou autre. Les tamarins, de petits singes orangés, sont aussi très sensibles à l'hépatite, continue le biologiste de formation. La souris peut transmettre cette maladie-là. Des écosystèmes. Si c'est zéro tolérance pour les rongeurs au biodôme, dit Carl Foisy, d'autres animaux, souvent qualifiés de vermines, sont les bienvenus, en nombre raisonnable. Les blattes du Suriname, par exemple, arrivent avec les plantes tropicales que les équipes du biodôme doivent planter pour offrir un milieu de vie adéquat aux animaux de la jungle. Les insectes, il n'y a pas d'enjeu de transfert de pathogènes, explique Nicolas Gruyère. Les blattes ne sont pas seules. On a des phasmes, des insectes branches, qui sont venus naturellement avec les plantations, a rapporté Nicolas Gruyère. Oui, ils mangent des feuilles, mais c'est une population qui se régule toute seule. On a des oiseaux qui, peut-être, en consomment aussi. C'est un écosystème. Il y a des régulations naturelles qui se font. Pour tout le reste, il y a Carl Foisy et son équipe. C'était « Chassé au biodôme », un texte de Philippe Teixeira-Lessard, paru le 31 août 2024 dans la presse.
Le décrochage scolaire ou secondaire a bondi pendant la pandémie. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 10 juin 2024 dans Le Devoir. Le taux d'élèves du secondaire qui ont abandonné leurs études sans diplôme ni qualification a bondi de 2,5 points de pourcentage en un an dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, ce qui a mis fin à une tendance à la baisse qui était en cours depuis deux décennies, montrent des données de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, rendues publiques le lundi 10 juin 2024. Entre les années scolaires 1999-2000 et 2019-2020, ce taux était passé de 21,9% à 13,5%, suivant ainsi une courbe à la baisse. Celle-ci a toutefois été renversée dans le contexte de la crise sanitaire qui est venue perturber le milieu de l'éducation. Il a notamment dû composer avec une série de mesures de confinement qui l'ont forcé à opérer un virage temporaire vers l'enseignement en ligne, afin de limiter les risques de transmission de la COVID-19. Ainsi, la proportion d'élèves ayant quitté le secondaire sans avoir obtenu un diplôme a atteint 13,8% en 2020-2021, avant de grimper à 16,3% en 2021-2022, indique l'ISQ, qui ne dispose pas de données plus récentes. La pandémie avait également été associée à une hausse du taux d'échec au secondaire dans certaines disciplines. Les données sont préoccupantes et démontrent une fois de plus que la pandémie a été difficile pour nos élèves, a indiqué dans un courriel au Devoir le cabinet du ministre de l'Éducation Bernard Drainville, qui note que le contexte pandémique a ébranlé le parcours de plusieurs élèves. Jamais on ne fera de compromis sur la réussite éducative. On travaille tous les jours pour inverser cette tendance, ajoute le cabinet, qui affirme que le gouvernement Legault a investi 11,4 milliards de dollars depuis 2018 dans plusieurs initiatives ayant pour objectif d'accroître la réussite scolaire au Québec. Seulement, dans le dernier budget, ce sont 544,5 millions de dollars supplémentaires qui sont consentis à soutenir la réussite des élèves, notamment via notre plan de rattrapage, afin d'éviter les effets négatifs des dernières grèves des enseignants, ajoute le cabinet. Un écart qui se rétrécit. Le taux calculé par l'ISQ comprend les cas de décrochage scolaire, mais également les élèves qui ont quitté le réseau scolaire québécois parce qu'ils ont déménagé dans un autre pays ou en raison d'un décès. Depuis plus de 20 ans, les données compilées à cet effet montrent un taux de départ plus grand chez les garçons que chez les filles. L'année scolaire 2021-2022 ne fait pas exception à cette tendance. L'ISQ faisant état d'un pourcentage de départ sans diplôme qui s'élève à 20% pour les garçons et à 12,7% pour les filles, ce qui représente un écart de 7,3 points de pourcentage. L'écart entre les sexes a toutefois diminué au cours des 20 dernières années, note l'ISQ. En effet, lors de l'année scolaire 1999-2000, cette différence était plutôt de 12 points de pourcentage. Elle s'est depuis rétrécie au fil des années. Il faut d'ailleurs remonter aux années scolaires 2010-2011 et 2011-2012 pour obtenir des taux aussi élevés de départ pour les garçons et pour les filles, respectivement. C'était « Le décrochage scolaire au secondaire a bondi pendant la pandémie », un texte de Zachary Goudreau, paru le 10 juin.